France Musique. Les grands entretiens. Yvan Amar. France Musique.
Je m'appelle Bernard Lubin, né à Uzest, en Gironde, le 12 juillet 1945. Je suis œuvrier, artiste, musicien.
Bernard Lubin, on vous a quitté, vous étiez entré au Conservatoire de Paris pour faire de la percussion. Vous y êtes resté assez peu parce que vous avez eu votre prix assez vite. Vous gagnez votre vie ici et là comme vous pouvez, à faire du bal, les Folies Bergères, etc. Vous rencontrez beaucoup de gens et en même temps, vous rencontrez ce qu'on appelle à l'époque la musique contemporaine avec des gens qui font de la musique savante quand même.
Ah ben oui.
Comment ça s'est passé, vos rencontres avec des gens comme soit Berlioz, soit Xenakis, soit le domaine musical de Diego Masson. Comment vous aviez rencontré ces gens? C'est par le biais du conservatoire ou pas?
Les deux, parce que justement de plus en plus il y avait une espèce de conjonction entre les gens qui savaient lire la musique et ceux qui savaient improviser.
C'est là que vous saviez les deux justement.
Voilà. Comme Michel Portal, comme Jean-François Jenny Clark, le contrebassiste, comme certains, comme Jacques Di Donato. Voilà. Et d'un seul coup, il y a eu cette conjonction. De plus en plus, comme Berlioz, il y avait des tas d'endroits où il fallait improviser, quoi. Ils étaient déjà sensibles à cette question de l'improvisation. Après, il faudrait développer qu'est-ce que ça veut dire, l'improvisation, quoi.
Ça veut pas dire la même chose pour tout le monde.
Heureusement.
Ouais. Mais Berlioz, il vous faisait improviser.
Oui.
Sur quelle œuvre de Berlioz vous avez travaillé?
Par exemple, un disque qui est sorti, je ne sais plus lequel, dans lequel je suis. Je joue de la batterie, des percussions, et il n'y avait pas de notes de musique écrites. Au vibraphone aussi. On avait fait une création, je ne sais plus le titre de cette œuvre, à la Scala de Milan pour quatre solistes et orchestre symphonique. Toujours est-il qu'à la première répétition, l'orchestre s'est mis en grève prétendant que ce n'était pas de la musique.
Il ne voulait pas jouer ça?
Il ne voulait pas jouer ça parce que ce n'était pas de la musique. Alors ça fait tout un merdier, il y a eu la grève et tout, c'était intéressant comme truc. Et nous les solistes, on était là, il y avait Michel Portal, Jean-Pierre Drouet.
Donc deux percussionnistes, Drouet et les percussionnistes
oui,
aussi.
Oui, oui. Mmh. Oui, deux percussionnistes parce qu'il y avait une partition de vibraphone et une partition de marimba, je crois. Portal à la clarinette. Donc la musique contemporaine m'a tout de suite intéressé parce que c'était une bifurcation, quoi. D'un seul coup, on était en dehors de la musique tonale, on était en dehors de la métrique classique. Donc c'était une bifurcation, y compris par rapport au jazz. D'ailleurs, après Varèse, par exemple, on a joué, j'ai oublié parce que j'ai fait quand même, je crois, un an ou deux comme percussionniste au concert Lamoureux. Voilà, c'était à Pleyel, et là j'ai joué le Boléro de Ravel et tous ces trucs. C'était une expérience très intéressante, j'ai fait plein d'expériences comme ça. La vie m'a entraîné à l'expérience du différent, du divers, et je compte bien continuer cette histoire. Ne pas m'arrêter dans une conclusion, dans une croyance révélée, que ceci étant cela, ça ne serait que ça. Non, pour moi, c'est pas possible, ça. C'est pas... J'écoute tous les jours, j'écoute France Musique, j'écoute de la musique classique, j'écoute pas assez de musique contemporaine, sauf la nuit. J'écoute du jazz, j'écoute de la chanson, quand c'est de la chanson.
Mais est-ce que les musiciens, disons, de musique contemporaine de l'époque, c'est-à-dire l'extrême fin des années 60, début des années 70, ouais, ils se méfiaient pas de l'improvisation?
Si, surtout les compositeurs. Parce que les compositeurs, avec l'improvisation, ils perdent le statut de la SACEM, quoi. C'est compliqué à la SACEM, bon. Et c'est difficile, l'improvisation, c'est pour ça que l'improvisation, ça mériterait un sujet à part, parce que c'est passionnant et complexe, et c'est politique. Et c'est psychologique, et c'est philosophique, et c'est esthétique, évidemment.
Voilà. Mais il y avait des musiciens qui engageaient quand même des improvisateurs. Par exemple, vous avez travaillé avec Xenakis.
Oui, c'est-à-dire que les improvisateurs comme nous, on avait une façon aussi différente d'interpréter l'écrit. On n'avait pas le même entraînement que les musiciens classiques à interpréter la partition. Quand on improvise, on est responsable, on est coupable, on est compositeur. Je dis, pour moi, l'improvisation, c'est de la composition instantanée, multimédiate. Et alors, où c'est pire, c'est, quelqu'un a déjà dit que l'improvisation, c'est s'affranchir de l'illusion de se croire libre. L'improvisation, c'est se souvenir de ce qu'on n'a pas encore joué.
Tournant des années 70, Bernard Luba, vous êtes donc un jeune musicien à Paris, vous sortez du conservatoire supérieur, vous frayez un peu avec tous les milieux de la musique contemporaine, vous commencez le jazz, mais en même temps, vous gagnez pas mal d'argent parce que vous devenez ce qu'on appelle un requin. On appelait ça un requin à l'époque, qu'est-ce que c'est un requin?
Un requin des studios. Alors là, je vais raconter comment je suis devenu un requin. Ça commençait à jouer en Lépin, je jouais avec Jeff Gisson, j'étais vibraphoniste et donc je chantais mes improvisations en même temps que je les articulais sur l'instrument. Je fais ce concert et là j'étais vraiment, j'avais pas beaucoup de travail à Paris, je faisais quelques remplacements, quelques trucs, vraiment des boulots pénibles et mal payés pour survivre. Et à la sortie du concert, dans les coulisses, je vois arriver Mimi Perrin, qui avait créé le groupe vocal Les Double Six, qui me demande si ça m'intéresse de chanter dans le groupe. Je dis, je ne savais pas si je savais chanter ou pas, pour remplacer Eddie Lewis avec la partition d'Eddie Lewis. Ça a d'abord été ça comme proposition. 10 minutes après, je rencontre Jean Lexia, un des plus grands arrangeurs de l'époque, qui faisait tous les arrangements de tout le showbiz de l'époque, la variété et tout ça. Bon, il me dit, je cherche un vibraphoniste pour mes séances. Je te préviens, j'ai du boulot tous les jours pendant la semaine. Ça commence au mois de septembre. Donc j'étais chômeur, j'étais vraiment rase-motte là. Et à partir du mois de septembre, j'arrive à Paris surchargé de boulot, à la fois de séances avec Jean Lexia, et de répétition avec Mimi Perrin, avec Dizzy Gillespie qui traînait par là, etc. Au milieu de tout ça, je jouais aussi, heureusement, parce que, je veux dire, la journée dans les studios, je jouais de la musique alimentaire, et la nuit, je jouais de la musique élémentaire, dans les clubs de jazz comme... Le Blue Note, le Caméléon, le Chat qui Pêche, le River Bop. Les Trois Maillets aussi, le Caveau de la Montagne, tous ces clubs comme ça, toutes ces caves dans lesquelles le jazz s'était sauvé, là, comme ça. Et la journée, je jouais avec...
Et donc ces séances, c'était pour faire de la musique de film, pour accompagner des chanteurs de variété, pour faire de la musique de publicité, un peu tout.
Au début, c'était un peu intéressant parce que je ne savais pas si je savais le faire. Puis le niveau était pas mal. Ça m'a permis de rencontrer Claude Nougaro, de travailler aussi avec Gilbert Bécaud, des choses intéressantes quand même, avec Yves Montand aussi, des tournées, pas que des disques, mais des concerts. Et puis des musiques de films avec Michel Legrand, avec Michel Colombier. Dans ces séances-là, il y avait pas mal de musiciens de jazz aussi, Maurice Vander, Eddie Lewis, Michelot, des gens que j'ai connus, André Arpinou, un batteur formidable. Et j'ai rencontré des musiciens exceptionnels dans ces studios, Jean-Louis Chotin par exemple.
Donc des musiciens qui savaient très bien lire,
parce que c'est ça qu'il fallait
pour pas faire perdre de temps aux gens qui louaient le studio.
Ils savaient tout, mais c'était des musiciens incroyables, ils savaient très bien lire, ils savaient improviser, ils avaient une technique instrumentale remarquable, c'était vraiment des costauds quoi. Ouais. Dans ce milieu-là, j'ai fait quelques apparitions de chefs d'orchestre, d'arrangeurs, avec des gens comme par exemple cette chanteuse formidable, populaire, Francesca Solville. J'ai fait des disques avec elle et des arrangements, avec Yvan Dautin aussi, un musicien, un poète extra, vraiment très bon poète et musicien. Voilà, j'ai fait des choses quand même intéressantes, mais au fur et à mesure, c'est devenu vraiment inintéressant.
Ouais. Mais pendant quelques années quand même, vous en vivez. Et vous en vivez même bien, vous gagnez beaucoup d'argent à ce moment-là, très jeune.
Je fais que ça, je travaillais de 9h du matin jusqu'à minuit, parce que je faisais 3 ou 4 séances d'enregistrement par jour, de 3 heures, donc plus à 21h je jouais dans un théâtre, par exemple avec Portal, on a joué pendant 6 mois, Marassade. Ce scandale à l'époque, voilà. Bon, et après, j'allais.
Marassade, c'était donc ce spectacle de Peter Brook.
Oui, voilà. Peter Brook, c'était au théâtre Sarah Bernhardt, mais ça s'appelle plus Sarah Bernhardt, ça s'appelle Théâtre de la Ville. Et en même temps, à minuit, j'allais en courant jouer dans un club de jazz. Bye.
Maurice Vander, Pierre Michelot, Bernard Lubat.
France Musique, les grands entretiens de Bernard Lubat.
Vous étiez content de gagner beaucoup d'argent à l'époque? C'était par rapport à, justement par rapport à ici, à Uzès, à votre père Alban qui monte l'estaminet, à tout ce milieu populaire d'où vous venez. Ça vous donne quelle image de vous? Est-ce que vous rentrez tout fier en disant « Je suis monté à Paris, j'ai réussi. Regarde, papa, j'ai une Jaguar. »
Oui, mais c'est exactement ça. J'avais une Jaguar, d'occasion.
Vraiment. Mais quand même.
Mais l'idiot, quoi. C'est vraiment le piège à con. Le gascon que je suis, c'est laisser faire, quoi. Parce que quand on arrive d'un milieu sommaire, c'est pas que l'argent, c'est la reconnaissance de se sentir utile. Vous savez, quand on vous appelle sans arrêt pour travailler, vous êtes honoré, quoi. J'avais un carnet, moi, qui était plein 6 mois à l'avance, quoi. Alors là, vous sentez quelqu'un, vous sentez vivant. Et puis, petit à petit, cette sensation, heureusement, s'érode par l'expérience, par le vécu, par justement la lecture aussi, de découvrir dans quel monde je suis, parce que je suis assez engagé dans la compréhension du monde dans lequel j'habite et qui m'habite. pour savoir qu'est-ce que c'est ce truc-là. Ça prend du temps à s'interpeller, à se gasconjuguer, je dirais, quoi. Voilà. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je devienne critique et que ça rendait la situation critique. Et l'endroit où j'ai vraiment conjugué la critique maximale, c'est pour un concert à la Maison de la Radio, organisé par ce cher André Francis, qui m'adorait comme vibraphoniste, et qui me dit vraiment, je fais un concert, vraiment, il faut que tu sois, parce que j'étais réputé comme un futur grand vibraphoniste. Et il programme ce concert à la Maison de la Radio, je crois que c'était en 1976, et dans ce concert à la radio, j'organise, je participe, je suis débordé, enfin, par une espèce de scandale où la musique explose de tous les côtés.
Un scandale que vous aviez quand même
Oui, mais j'étais pas intellectuellement capable à l'époque de penser la pertinence d'un scandale pareil. Mmh. Lucien Malson, ce philosophe critique du jazz, a intitulé ce concert « Microdrame à la Brecht ». Et ça m'a interpellé, parce que ça fait un scandale. La moitié des gens dans le studio 104, je crois, je sais plus quel, gueulaient. C'est pas du jazz. Les autres, de l'homme, on avait compris. C'est une critique,
Mais il y avait un côté très provocant aussi de votre part. Ah ben, vous avez cassé les vibraphones. Oui, vous avez demandé à Norbert Le Teul de se coucher dessus.
Oui, ben, il était trop gros. Le vibraphone, c'était ce qui, d'ailleurs, c'était la fin de ma vie avec le vibraphone. J'ai trouvé.
Ah, racontez-nous ça. Qu'est-ce qui se passe, alors?
Ben, j'étais déçu de ce vibraphone parce que je pensais qu'il était plus guide que ça, quoi.
C'est vrai. Et vous avez demandé à Le Teul de se coucher sur le vibraphone.
Oui, Norbert Le Teul, il faisait 140 kilos, mais je pensais qu'un vibraphone, surtout américain en plus, tu vois, comme à la radio, allait tenir le coup mieux. Mais j'ai toujours pensé que le jazz était provocant. Sans ça, il était pas, il devenait client. Le provocant parfait, c'est Charlie Parker pour commencer, parce que pour jouer après, hein, il ne faut pas se suicider. Deuxièmement, après Coltrane, le quartet avec Elvin Jones, en 1965, j'ai joué en première partie de Coltrane.
À Antibes.
Et je suis allé dans la deuxième partie écouter le quartet, et là j'ai compris absolument tout de suite que je n'avais rien compris. Mmh. Et là j'ai vu la moitié de la salle, la Pinède, partir, les critiques de jazz scandalisés, c'est pas du jazz. Là, j'ai compris qu'il y avait de l'eau dans le jazz. Il y avait quelque chose, quoi, une fuite de jazz. Et quand il est arrivé à Paris, à l'Olympia, ça a recommencé. La moitié des gens ont gueulé, c'est pas du jazz. Je connaissais ça avec la musique contemporaine. C'est pas de la musique. Il y a des gens qui savent ce que c'est la musique. Ce sont des abrutis, ceux-là. Il faut se cultiver. La musique, c'est pluriel, c'est le divers, c'est ce qu'on sait pas. Chaque fois qu'on croit qu'on sait ce que c'est la musique, souvent, ça n'est plus de la musique. Ce sont des souvenirs de musique. Ce sont des illusions de musique.
que vous n'avez pas l'impression, Bernard Luba, que vous sciez un peu la branche sur laquelle vous avez eu du mal à vous asseoir? Vous gagnez beaucoup d'argent en étant en studio, et petit à petit, vous ratez les séances, vous arrivez en retard, vous buvez un coup de trop, vous jouez... Bon, vous grillez, quoi.
Ah, heureusement. Heureusement que je me suis grillé. Attends, je ne serais pas ici. Je ne sais pas où je serais propriétaire de 5 ou 6 appartements à Paris. Non, je ne me suis pas grillé volontairement, je me suis grillé par réflexe. Par réflexe de survie. J'ai été peut-être à ce moment-là intelligent sans le savoir. Ça m'a vexé un peu d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup lu depuis, entre-temps. Cette bifurcation généreuse et générale, j'ai cru qu'elle m'avait coûté cher, pas du tout. J'ai sauvé ma vie parce que j'allais devenir professeur de vibraphone, quoi. Non, pas question. Je suis un artiste, c'est-à-dire je suis incomplet, infini, je ne suis pas au point. Et vous savez, je ne sais pas qui a dit, les poètes sont dans la lune, ils pèsent 6 fois moins que sur Terre. Donc je suis un sous-réaliste. Je ne suis pas qu'un musicien, je suis un artiste, je suis un œuvrier. Ce qui m'importe, moi, c'est l'œuvre. Ma carrière est derrière moi, mon œuvre est devant moi. Et ça a toujours été comme ça, sauf que maintenant, je le sais. À cette époque, je ne le savais pas. Je croyais que, comme tout un tas de gens, que l'argent fait le bonheur, que la reconnaissance, c'est la panacée, que ça n'a rien à voir. Quoi.
Et vous avez eu, de façon un peu instinctive, le réflexe qu'il fallait pour casser justement un succès qui était mortifère.
Ça s'est fait petit à petit, mais par cette apparition de Compagnie Luba en 1976, ça s'est appelé Compagnie Luba parce que tous les participants à cette agape, ils n'ont pas pris le risque que ça puisse s'appeler par leur nom. Il y avait Jean-Louis Chotan, Di Donato, tout ça. Bon, ils appelaient, vas-y Luba, occupe-t'en, bon d'accord, allez, vas-y, le pecno. Et bien, ça s'est appelé Compagnie Luba. Et pendant plusieurs années, on a un peu, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la déconstruction. Mais moi, je ne savais pas qu'on déconstruisait quelque chose. Moi, je pensais que justement, j'étais en train de redevenir vital, vivant, quoi. En jouant de la basse, en chantant, en apostrophant le public, en parlant, en disant aux gens, ben quoi, en parlant. Parce que j'en pouvais plus d'être un musicien mutique, un peu comme tous ces musiciens que je connais, que j'aime beaucoup, mais qui sont tonitruants en coulisses, qui ont eu un esprit terrible, qui ont de l'imagination, qui ont de l'insolence, et puis sitôt qu'ils rentrent sur scène, alors là, ils redeviennent gothiques flambés, qui reviennent dans le corset dans lequel l'éducation les a congelés. C'est pas possible, ça. Pour moi, c'est pas possible, artiste. Être artiste, c'est vraiment une espèce de... Vous savez, le jazz est une musique de voyous improvisée par des voyants.
La Compagnie Luba de Bernard Luba avec Madame Mimi, c'est le titre. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les références sur la page de cette émission que vous pouvez réécouter sur francemusique.fr. Les grands entretiens de Bernard Luba, Gilles Blanchard, Raymond Albouy, Flora Sternadel, Cédric Chatelus, Yvan Amar et demain Bernard Luba dans les clubs parisiens.
À réécouter sur francemusique.fr.